Ève Tamlekoulam, on revient dans notre étude du livre de Shemot et on est toujours dans le chapitre Kafhe au verset 9. Verset 9, donc on se rappelle, on a eu une semaine de répit. La semaine dernière j'ai eu un petit bug, une réunion qui ne se terminait pas. Et donc voilà, nous reprenons, nous sommes dans la construction du Mishkan. Ok ? Et on a expliqué la dernière fois que le Mishkan, vous l'avez eu d'ailleurs en double ration, ceux qui étaient en live ici il y a deux semaines et ceux qui l'ont revu quand je l'ai refait parce que il n'y a pas eu de son sur la première version. Donc on a compris que l'idée de construire le Mishkan, c'était Ve'asuli Mikdash, c'est-à-dire de faire un endroit de Kedusha, donc un endroit où on peut rencontrer Akadosh Baruch Hu. On avait expliqué également que dans l'idéal du Mishkan, du Mikdash, c'est les nations qui doivent y participer parce que, eh bien, le dévoilement divin, dans l'idéal, doit s'adresser à l'humanité tout entière. Ok ? On était arrivé à ce moment-là et maintenant nous allons pouvoir rentrer dans la configuration du Mishkan. Qu'est-ce qu'il y a dans le Mishkan ? Ben, ça y est l'air ? Alors, allons-y. Dans quelle page ? Je ne sais pas, mais c'est chapitre... Toi, tu dis 113. C'est toi qui as répondu comme ça ? Ouais. Page 113. C'est le... Bah, évidemment, si tu as pris Bereshit, ça ne nous aidera pas.
Non, elle a pris Shemot.
Eh bien, c'est très bien. 113. 1, 1, 3.
Café.
Café. Quel est le problème ? Qu'est-ce qu'est le problème ? Oui, il y a une erreur d'impression, c'est oui, fantastique, hein. Mais ça ne change rien, c'est quand même la bonne page.
Ah, c'est bon, ouais. D'accord.
C'est vrai, c'est intéressant. Verset tête. Kechol. Ok ? Alors, c'est parti. Donc, on construit le Mishkan, et comment doit-on le construire ? Kechol, asher ani mar'e otra. Et tavnit à Mishkan, et tavnit kolkelar, vechen ta'asu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Kechol asher ani mar'e otra. Eh bien, il y a deux possibilités de traduction. Soit, ça veut dire, de la façon dont je te montre ce qu'il faut faire, bah, tu vas le montrer aux autres. Et voilà, comme ça, ils feront vechen ta'asu. Ou alors, Kechol asher ani mar'e otra, c'est-à-dire pas de la même de la façon dont je vais te le montrer, tu leur montreras. Et là, je vais te montrer. C'est quoi ? Non, ça c'est la première version. La première version, c'est de dire de la même façon que je vais te le montrer. Dieu parle à Moshe. Je vais te montrer le Mishkan, comment il sera fait. Eh ben, tu l'enseigneras aux autres et vechen ta'asu. Ça, c'est la version classique. On peut imaginer, Dieu, il montre les plans à Moshe et Moshe, il donne les plans aux autres. Ou alors, et c'est plus le pshat, kechol asher ani mar'e otra. Je vais te montrer aux autres.
Toi.
Vechen ta'asu. Ben, ça veut dire que lorsque les gens voient Moshe, il voit Tavnit à Mishkan et Tavnit Kolkela. Lorsqu'il voit Moshe, on peut voir le Mishkan. Hoppa. Alors, je ne sais pas trop encore ce que ça veut dire, mais une chose est sûre, ça veut dire que Moshe, sa personnalité, est directement liée au Mishkan. Ce qui est assez surprenant parce que si je vous avais demandé quelle est la personnalité prépondérante qui est au centre du Mishkan, a priori, vous ne m'auriez pas dit Moshe. On aurait dit Aaron, évidemment. C'est Aaron qui va être le Kohen Gadol, c'est Aaron qui est le patron du Mishkan. Vous remarquerez que alors que dans la paracha de Terouma, on va passer en revue tous les objets qu'il va y avoir dans le Mishkan, à aucun moment le mot Aaron n'apparaît. dans toute la paracha de Terouma. Je veux dire, c'est suffisamment particulier pour être souligné. Vous allez me dire, Aaron, il apparaît pas toutes les 5 minutes. Nahon. Mais là, on va te parler du Mishkan, on va te parler de comment on construit le Mishkan et comment ça marche, et on te parle pas du premier intéressé. D'ailleurs, c'est pas que Aaron qu'on va pas évoquer. Bichlal, dans toute la paracha de Terouma, on n'invoquera absolument pas le concept qui s'appelle les Kohanim. D'après la paracha de Terouma, il n'y a pas de Kohanim. Alors, tu dis, à l'origine, c'est les Bechorot qui doivent servir et pas les Kohanim. Mais tu nous ramènes à ce moment-là dans la marloquette qu'on avait dit il y a 2 semaines, est-ce que ça se passe avant le Vaudor ou après le Vaudor? Si on suit Rashi qui dit que ça se passe après le Vaudor, il y a déjà eu le changement entre Bechor et Kohanim. Mais dans tous les cas, c'est pas la vraie réponse que je te donne. Pourquoi? Parce que dans la paracha de Tetzavé, donc la paracha suivante, là on va oui nous parler des Kohanim.
Par contre, on parle pas de Moshé.
Voilà, et on parlera pas...
Et tous les
ans,
on a une dracha dessus.
Et tous les... Parce que c'est... Ben, ce que je te dis, c'est la même chose. On fait que radoter ici.
Non, d'accord, mais ça ne dira pas, on dit qu'on mentionne là Moshé dans cette savée.
D'accord. Mais c'est vrai.
Et cette Rouma, c'est ça qui a apporté le ridouche, qu'on ne parle pas de l'Aaron.
Mais c'est pas un ridouche.
Bah, je ne sais pas, personne n'en parle tous les ans.
Je n'ai pas compris. Personne n'en parle ou moi j'en parle tout le temps?
Non, personne n'en parle. Cette savée, tout le monde n'en parle que Moshé.
Ah, tu dis, dans cette savée, tout le monde dit, le nom de Moshé n'apparaît pas. Mais tout le monde oublie de dire que dans la paracha de Terouma, le monde d'Aaron n'apparaît pas. Bah oui, bon bah voilà, bah il est. Bah non, tout le monde le sait.
C'est pas juste.
Bah voilà, on a ramené la justice. Ça a l'air, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc j'ai dit, c'est pas seulement que ici il y a Moshé et pas Aaron, et là-bas dans Tetzavé il y aura Aaron et pas Moshé. Il y a aussi pas de Kohanim, ici il y aura des Kohanim là-bas. Ici, dans notre paracha de Terouma, il n'y a pas non plus de... préparation particulière pour rentrer dans le Mishkan. Il n'y aura pas d'habit particulier dans la paracha de Terouma.
Ouais, mais ça fait,
y a ça. Ah ben, tu vois le contraste. C'est-à-dire dans Terouma, si je lis que la paracha de Terouma, je me dis qu'il n'y a pas besoin de Kohanim et qu'il n'y a pas besoin d'être vêtu de manière particulière au Beit HaMikdash. Et dernière chose particulière de Terouma, c'est que si je lis la paracha de Terouma, il n'y a rien qui m'empêche d'arriver jusqu'au Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que il n'y a pas de séparation entre les différents niveaux. Et il n'y a pas non plus besoin de se purifier avant de commencer à bosser. Le Kiyor n'apparaît pas dans la paracha de Terouma. Le Kiyor qui servait à, je sais pas comment on dit, l'ablution des mains et des pieds avant le service des Kohanim. C'est suffisamment particulier pour être souligné. Alors que dans Tetzavé, c'est tout l'inverse. Moshé n'apparaît pas, le nom de Moshé n'apparaît pas, et à l'inverse, on va parler des Kohanim, des habits, de comment on se prépare, et de Aaron, évidemment. Pourquoi? C'est aussi un clé, les habits de Kehuna. Non, non. Ce que tu dis, c'est pas au sens figuré. Tu dis, le Mishkan de Terouma, c'est le Kli. C'est qu'est-ce qu'il y a dans le Mishkan. Et par achat de Tetzavé, c'est comment on s'en sert. Sauf que je réponds. C'est pas au sens figuré. C'est, je comprends ta question. Dis non. Parce que dans la par achat de Tetzavé, c'est aussi des Kélim. Les habits des Kohanim, c'est des Kélim. On me dit pas encore comment la Avodat à Mishkan. La Avodat à Mishkan, ça sera dans le livre de Vaïkra, Bichlal. Ok? Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a 2 Mishkan différent. Pas dans les faits, mais dans l'idée. Il y a le Mishkan version Moshe et le Mishkan version Aaron. Ce sont 2 Mishkanim qui doivent se superposer. Au final, il n'y en a qu'un seul de Mishkan. Mais tels qu'on nous les présente, ils sont différents. Pourquoi cela? Eh bien parce que le dévoilement divin passe par 2, on va dire, Arutzim, par 2 voies, par 2 Torot. Il y a la Torah de Moshe et la Torah de Aaron. Ce ne sont pas les mêmes Torot. D'où on le sait que la Torah passe et par Moshe et Aaron. Eh bien, dans le livre de Shemot, on avait étudié qu'il y a marqué « Daberu el kol adat bnei Israël ». Rachid nous avait dit à ce moment-là, Mazé Daberu, Vechi Aaron Medaber, Alone Marata Tedaber, dans la paracha de Bo. Et on avait dit, comment ça, Aaron y parle? Pourtant, Dieu a dit à Moshe, c'est toi qui vas parler. Et là, Moshe Omer le Aaron Mashamata, Ve Aaron Omer le Moshe Mashamata, Ve Adibur Yotse Mi Ben Shenem. Ce qui veut dire, Moshe demandait à Aaron, toi t'as entendu quoi dans la névoie? Et Aaron demandait à Moshe, et toi t'as entendu quoi dans la névoie? Et au final, la parole divine sortait d'entre les deux. Ce qui veut dire qu'on a besoin et de la Torah de Moshe, et de la Torah de Aaron. Mais quelle est la Torah de Moshe et la Torah de Aaron? Eh bien c'est très simple, la Torah de Moshe c'est le Mishkan de Terouma. Alors que la Torah de Aaron c'est le Mishkan de Tetzavé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comme on l'a dit tout à l'heure, dans le Mishkan de Terouma, il n'y a pas besoin d'intermédiaire entre toi et Dieu. Pas de Kohanim, pas d'Abi, pas de Kior, pas de... Il n'y a pas non plus qu'on rentre dans le Mishkan qu'une fois par an, dans le Kodesh HaKodashim qu'une fois par an, ainsi de suite. Mais Kitsour, il n'y a pas d'intermédiaire. Pourquoi il n'y a pas d'intermédiaire? Parce que dans la conception de la Torah version Moshe, l'homme est idéal. L'homme ne faute pas. La faute n'est pas tolérable dans la Torah de Moshe. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un faute version Torah de Moshe? Ben, vadaï! Tu fautes, tu meurs! Point! Aaron, zemashéou acher. La Torah de Aaron est basée sur un autre concept complètement différent, qui est développé en long, en large et en travers dans le Sipouré Maasiot de Rabbi Nachman de Breslav, dans le Sipour de Maasé Beben Amelech, Shechashav et Atzmo Hindik. Ce qui veut dire en français l'histoire du prince qui se prenait pour un dindon. Quoi? C'est Rabbi Nachman de Breslav. Mais il faut étudier Rabbi Nachman de Breslav, je comprends pas. Parce que c'est bien beau d'aller Hidbo dédouter toutes les 5 minutes, mais il faut étudier Rabbi Nachman aussi. Il dit des choses intéressantes aussi. Faut aller regarder. Alors, Maasé Ben Ameler, c'était l'histoire d'un prince qui se prenait pour un jour, il s'est levé et il s'est pris pour un dindon. Voilà. C'est tout. Il parlait plus, il s'était mis tout nu, et il courait il sautillait comme ça dans le palais, en faisant, je sais pas comment ça fait le dindon exactement, mais je pense que je suis pas très loin. Et voilà. Et personne ne sait, le roi, il en pouvait plus. Mon fils, mon héritier, il a appelé tous les médecins du royaume. Personne n'a réussi à le guérir. Et il se prenait pour un dindon, il était comme ça. Un jour est arrivé un médecin du fin fond du royaume, et il a dit au roi, moi, je peux te le guérir. Il a dit, je te donne ce que tu veux, vas-y. Et là, qu'a fait le médecin? Eh bien, il s'est mis à poil lui aussi. Et il s'est mis sous la table, avec notre prince dindon. Et il s'est mis à faire... Je fais très mal le dindon, mais vous avez compris l'idée. Alors, je vais faire une traduction simultanée, parce que si on fait leur discussion en dindon, vous ne comprendrez pas. Et donc... Le prince, étonné de voir un autre dindon à côté de lui, lui dit « Oh, t'es un dindon ?» Et l'autre, il lui dit « Bah oui, je suis un dindon. » Ah, et il commence à devenir très copain. Et à un moment donné, le médecin lui dit « Tu sais, on peut être un dindon, mais être habillé. Enfin, ça ne nous enlève pas le fait d'être un dindon. T'es sûr ?»« Ouais. » Et ils se sont habillés. Mais ils étaient toujours des dindons. Et bien après, il lui a dit « Tu sais, on peut aussi ne pas être sous la table, mais assis sur une chaise. Mais attention !» Rester des dindons. Il dit, ouais. Et ils se sont assis sur une chaise. Il dit, tu sais, on peut aussi manger avec les mains et pas picorer avec le bec et on reste des dindons. Ah, ouais. Et tu sais, on peut aussi utiliser des couverts pour manger, mais on reste des dindons. Et tu sais, on peut aussi... Eh bien, ne pas manger que des graines et picorer comme ça, mais on peut manger des aliments. Ah bon? Ouais? Et on est des dindons? Ouais, bien sûr. Après, elle dit, tu sais, on peut parler aussi comme des êtres humains, mais on reste des dindons. Ah bah, ok, essayons. Elle dit, ah, mais maintenant que tu as parlé comme un homme, tu es un homme. Vekacha, il l'a ramené à sa condition d'homme. Mazéomer. Ben, ça veut dire que des fois, pour ramener la personne à sa condition initiale, ou alors en hébreu, pour l'arziroto bitchouva, eh bien, tu te dois de descendre à son niveau pour aller le chercher là-bas. Des fois, il faut savoir se salir les mains pour aller le chercher là-bas. Ah ah! C'est Bahaya. C'est Bahaya. Parce que c'est très beau comme idée. Ben, parce que ça veut dire quoi se salir les mains dans le machal? Dans la parabole? Là, en l'occurrence, c'est se mettre tout nu et se prendre pour un dindon. Maintenant, viens, on prend la parabole et on la met dans quelque chose de truc. Il y a un mec, il est, tous les vendredis soirs, il est Mechalel Shabbat dans des bars et machin. Alors, d'après l'histoire, qu'est-ce qu'il faut aller faire pour le sauver? Aller dans les bars le vendredi soir, et au début, boire une bière avec lui, et machin. Comme le Rav Grossman. Pas du tout comme le Rav Grossman. Pas du tout comme le Rav Grossman. Parce que dans notre histoire, le mec, il se met tout nu et il va sous la table et il devient un dindon. Ce qui veut dire que dans ma parabole, le mec, il va le vendredi soir, il est Mechalel Shabbat, il commande une bière, il va payer, et si on prend le machal. Le Rav Grossman, lui, il ne transgresse aucune halakha. Alors, je sais bien qu'il allait dans les discothèques, Rav à discothèquim, mais il ne transgressait aucune halakha. Et donc, il y avait quand même une barrière. Je dis pas qu'il a pas réussi, il a fait un travail extraordinaire. Rav Grossman, c'est Tzadik Elyon. Mais ce n'est pas encore ce que nous dit ici Maaseh Ben Hamelech. Donc, je dis, il y a un problème, parce que t'as pas le droit de transgresser la halakha. Non mais d'accord, mais là t'es en train de me donner, t'es en train de me mettre un axiome dans l'exemple que je t'ai donné. Mais non mais ça marche pas. Ou alors t'as pas compris l'idée de l'histoire. L'histoire elle est claire. Il y a un mec qui fait n'importe quoi pour aller le sauver. On fait n'importe quoi avec lui pour connecter et de là le ramener. Donc toi tu me dis, moi je te donne un exemple d'un mec qui est Mechalel Shabbat. Tu me dis non mais il y va aussi le mardi. Mais pourquoi? Ben c'est l'air. Alors s'il va mardi, mon autre exemple ce sera qu'il ira dans un resto pas cachère le mardi. T'as compris? Donc, c'est-à-dire que pour aller l'aider, il faudra aller manger pas cachère avec lui. C'est pas la peine que tu me dises, non, mais. Je crois pas que c'est ça qu'il a voulu dire. Ah, c'est complètement ça qu'il a voulu dire. Je t'en prie. C'est complètement ça qu'il a voulu dire. Et c'est ça, c'est un problème. Maintenant, t'inquiète pas. Tu vois tout de suite comme si on était en train d'attaquer Rabbi Nachman. Je te rappelle qu'après 300 ans, on continue à l'appeler Rabbi Nachman. Donc, c'est beseder. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Bémet, il y a un problème. Mais qui a le droit de faire ça? Aaron, non, pas Al-Sadiq. Aaron. Aaron, il l'a fait. Quand est-ce qu'il l'a fait?
Pour le
vaudor. Oui, mais non, parce qu'on a dit que d'après Rashi, ça se passe après le vaudor. Non, mais vous savez que Aaron, il va faire ça pour le vaudor. D'accord? Ah, mais c'est moutard. Alors Aaron, il voulait faire ça, pourquoi? Pour ramener les gens à Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Chag la Hachem machar ». Spoiler. « Chag la Hachem machar ». Il veut leur faire tchouva comme ça. Donc est-ce que c'est moutard ou est-ce que c'est assour?
Non, c'est assour de faire quelque chose qui d'interdit pour ensuite faire une mitzvah. T'as pas le droit de faire quelque chose assour qui te permet de faire une
mitzvah. Nahon. Et si c'est pour faire tchouva aux gens?
Manger pas kasher pour le ramener.
C'est ça la question. On n'a pas le droit, Nahon. Nahon, Alpia Alaha, vous avez tout à fait raison, on n'a pas le droit.
Pour Chata Egel, j'ai suivi un cours de Kuzari qui dit que c'est pas très clair.
C'est pas très clair, mais le problème, c'est que ça, il faudra attendre la paracha de Kitissa, bien évidemment. Maintenant, deux secondes. On n'a pas le droit, Alpia Alaha, Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de transgresser la Alaha, Nekuda. Sauf lorsque je joue mon joker. Il y a dans la halakha un joker qui permet de transgresser la halakha. Alors, pikuach nefesh, mais c'est pas un joker, parce que c'est pas pour sauver, c'est pikuach nefesh. Alors, à ce moment-là, c'est pour tout. Ça, oui, mais c'est plus un joker, c'est...
Justement, quand il ne fait pas
du
c'est
pas... Non, ça marche pas, ça. Ça marche pas.
Quand Israël a décidé.
Non, quand Israël a décidé de transgresser la halakha, ça devient pas permis.
Non, mais attends, plusieurs fois, tu avais dit que... comment dire, il y a des cas où Hervé, on dit de faire comme ça, mais comme Israël a décidé de faire comme ça, alors
ah, parce, que, fois, c'était parce que le minag, c'est que Israël a décidé que c'était autrement et que les rabbanim, ils ont dit ok. Mais ça, c'est parce que les rabbanim, ils ont dit ok. C'est-à-dire, la halakha, elle dit comme ça. Im halakha rofefet beyadecha. Si les rabbins ils n'arrivent pas à trancher, ils sont méboulbalim sur un sujet, alors va voir ce que le peuple y décide, c'est ça la halakha. Maintenant, moi on parle pas de ça, là on parle de trucs qui est tranché clairement. C'est pas qu'il y a un avis qui permet pas. Non, on permet pas, mais Amisraël a décidé de se le permettre. Exemple, transgresser Shabbat. La halakha le permet pas. Bah, aujourd'hui, 80% du peuple juif il transgresse Shabbat. Alors quoi, ça devient pas permis.
Hein?
Quoi? Alors je ne te permettrai pas de dire comme ça du lashon hara sur les. Ah bah ça. Non, t'as raison, c'est pire que du lashon hara, c'est motzi shemra. C'est-à-dire qu'en plus c'est un mensonge.
J'ai pas dit quelque chose de mal
pour moi. Mais si, t'as dit quelque chose de très mal. Parce que c'est un mensonge. Bien sûr. Tu veux que je te laisse terminer ta phrase? Tu veux qu'on le redise deux fois? Le problème, c'est que tu amènes comme postulat de départ qu'au début, les pieux... Si, c'est ça que t'as dit. Mais je sais que t'es une sadika! On se connaît assez, c'est bon! Non, je t'explique. Ton postulat de départ, il est faux au niveau historique, parce que tu penses qu'au départ, les gens qui sont venus construire le pays, c'était des gens qui respectaient pas la Torah. Or, c'est pas le cas. Les premières aliotes, c'était que des religieux, et même avant ce qu'on appelle la première alia, c'est-à-dire la première alia de 1882, c'est que des religieux. Et même avant, c'est aussi des... Mais c'est ça les chaloutzim. Mais les premiers chaloutzim, c'est des mecs avec des barbes et des péotes. Ok? Donc c'est pour ça que je te reprends sur quand tu as dit au début. Au début? Bah, ah. Donc on est d'accord. Tu parles de à partir de la deuxième alia va'elach, de à partir de la deuxième alia et plus, où les chaloutzim qui sont arrivés étaient des gens qui avaient déjà abandonné la Torah. Ils ont abandonné la Torah, ils ont construit la terre d'Israël, Kol HaKavod qu'ils ont construit la terre d'Israël, pas Kol HaKavod qu'ils l'ont fait pendant Shabbat. Maintenant, évidemment qu'on a une vision beaucoup plus globale et qu'on sait que Yad Hashem, elle était présente et on étudie le livre de Horoth, mais il n'empêche que le Shabbat en lui-même, c'est pas bien qu'il l'ait transgressé. Ça aurait été mieux qu'il le transgresse pas. C'est-à-dire, pas shoot. Donc, non, on a un joker, voilà, quelqu'un l'a dit, c'est Horat Sha'a. C'est qui a le droit de faire Horat Sha'a? Horacha, c'est-à-dire une mesure temporaire. C'est la prérogative des prophètes. Les prophètes, ils ont le droit, temporairement, de dire qu'il faut faire une avéra. Sauf Avodah Zara. C'est-à-dire que si un prophète qui te dit « Faites Avodah Zara juste demain à 10h », on le tue. Mais si le prophète, il me dit « Je vois que tout le monde est devenu fan du cochon », et ils ont complètement abandonné la cacheroute à cause de Monsieur Cochon. Il faut que je leur fasse prendre conscience à quel point le cochon, c'est mauvais. Si seulement ils comprenaient la grandeur de la cacheroute, alors je vais leur faire manger du cochon. Et comme ça, ils comprendront à quel point c'est pas bon. Parce qu'on va mettre dedans une ira de chamaïm énorme. Donc, je suis prophète reconnu comme tel, officiellement j'ai le diplôme. Et là, je dis sur Internet, sur tous les groupes WhatsApp, « Ko Amar Hashem, demain à 12h10, tout le monde mange 100 grammes de cochon. Hommes, femmes et enfants. » Bon, bah très bien. À ce moment-là, tout le peuple juif demain matin va chercher des cochons et de la viande de cochon dans certains... dans certains super, on va pas donner de pub non plus. On va chercher de la viande de cochon et chaque membre du peuple juif se prépare ses 100 grammes de cochon. Alors le prophète n'a pas dit comment les manger, donc il y a une marloquette entre les chachamim. Les ashkenazim ils disent que ça doit être du bacon et les sfaradim ils disent que ça doit être d'afka en ragoût. J'en sais rien, m'en fiche. Kitzur, c'est marloquette elou veelou, c'est-à-dire mais 100 grammes de cochon. Arrive 12h10. À ce moment-là, tous les Bnei Israël, Be Kavana Atsuma, se préparent et vont faire trois bénédictions. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Asher Non, il y a une mitzvah à l'échol chazir. Il y a une mitzvah d'écouter le Navi. Il y a une évdel ben Chefza et Gavra. Donc, la bracha que tu vas faire, c'est Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Asher Kideshanu ben mitzvotav vetzivanu lishmoa le divrei Navi. Ensuite, tu vas faire Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Shehakol Nia Bidvaro. Et après, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Shehechiyanu vekiimanu vegiyanu lazman hazeh. Oui, mais la mitzvah, elle est l'ishmoa la navi sha'amar le'echol chazir. C'est pour ça que je dis, il y a une différence entre chevtza et gavra. La mitzvah, elle n'est pas sur le chazir en lui-même, elle est sur l'ishmoa la navi qui a dit de manger du chazir. C'est-à-dire...
Mais au racha, c'est pas seulement pour détourner quelqu'un d'une avéra.
Pour faire tchouva.
Non, pas seulement.
Ben, c'est... Qu'est-ce que c'est détourner quelqu'un d'une avéra? Nous.
On a vu Esther quand elle a mangé.
Nous, je vois pas où est la machloquette.
Non, parce que tu dis pour montrer aux gens que le chazir c'est pas.
C'est un exemple, non, mais toute chose.
Et il y a où
Béhar Carmel, c'est pareil.
C'est pour détourner les gens du Navera.
Mais Enbaya, ça s'appelle. Ça s'appelle comment tout ça? Ça s'appelle ramener à Kadosh Baruch Hu. Shlomo, quand il fait le festin pour l'inauguration du Beth Amikdash et c'est Yom Kippour, c'est pour ramener tout le monde à Kadosh Baruch Hu, de comprendre à quel point on n'a même pas besoin de jeûner parce qu'on n'a plus de Averot aujourd'hui. Puisqu'on est en train de faire l'inauguration du Beth Amikdash. Ou alors Eliyahu Ben Hakarmel, c'est pour montrer qu'Hachem ou Elohim. Donc, des fois, la tchouva, c'est par rapport à une faute X ou Y, des fois, c'est pour se rapprocher encore plus de Dieu. Hein? Et c'est un Pessah, c'est pour te montrer que c'est, s'il n'y a pas Amisraël, il n'y a pas Pessah. D'accord ? Ça ? Non, mais Enbaya, on dit la même chose. J'ai dit faire tchouva de manière générale, c'est pas seulement revenir d'une faute X ou Y. Se rapprocher encore de Dieu. Donc ça, les prophètes, ils ont le droit de faire. Mais c'est que temporaire. Donc, à ce niveau-là, eh ben, le prophète, il peut faire ça. C'est Besséder. Ok ? Malasot, c'est donc quand on voit Moshe, quand il va voir le veau d'or, on spoil encore plus, on va voir le veau d'or, qu'est-ce qu'il a comme réaction Moshe? Bah, il se prend pas la tête, Moshe. Il dit, ah, Vodazara, allez, Yoshua, tu prends les 3000, là, tu les tues, on n'en parle plus. Mais oui, mais alors, Zemidatadin, il a voté, il a voté, point, c'est tout, terminé. Parce que des fois, Alpi Adin, ils ont des circonstances atténuantes. Quand il n'y a pas de circonstances atténuantes, il y a une mala à saute. C'est Mayesh.
Alors pourquoi il a un langage avec Hachem et il a un autre langage?
Ben parce que la situation n'est pas forcément la même. Quand Dieu lui a dit on va détruire tout le peuple juif, Moshe il dit non, on va pas détruire tout le peuple juif. On va détruire les 3000 qui ont fait n'importe quoi. C'est-à-dire? Donc il descend, il voit les 3000, il dit Yahwa. Aaron. Il dit, ah, putain, bon azorem. Et d'ailleurs, quand Moshe lui dit, pourquoi t'as fait ça? Réponse de Aaron, bah, ils m'ont demandé. Bah, j'allais laisser tout seul. Donc, on voit qu'on a deux chitotes complètement différentes. L'une, c'est l'idéal. Elle est fantastique, cette chita de Moshe. Mais elle a un problème. C'est qu'il faut être Moshe pour ça. Et on n'est pas Moshe. Si on avait eu que la Torah de Moshe, on aurait été incapable de réussir. D'un autre côté, si on avait eu que la Torah de Aaron, une religion qui est basée continuellement sur le fait qu'il y a des fautes et il faut les corriger, ben ça aurait créé le christianisme, avant l'heure. Donc on a besoin de l'idéal, c'est la Torah de Moshe, et de Aaron qui va permettre d'y arriver quand on a besoin. Donc, la paracha de Teruma, c'est le Mishkan version Moshe, de l'idéal. Et la paracha de Tetzavé, c'est le Mishkan version Aaron, dans la réalité, inscrit dans la réalité. On peut retrouver de cela un petit peu chez Hillel et Shammai. Mais pas à 100%. C'est-à-dire? Ok. Donc, maintenant qu'on a compris ça, on peut rentrer dans le Mishkan en lui-même. Allons-y. Vasu Aaron atse shittim. המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו. Qu'est-ce qui sort de manière évidente dans les mesures du Aaron?
Ils sont pas en
c'est qu'elles sont pas entières. Ron, c'est Ama Vachetzi, Amataim Vachetzi. Pourquoi? Pour pas que tu penses que Yesh Lemout, Baolam Azé. En Shlemout. Gam Baharon. Même dans le Haron, dans le Kodesh HaKodashim, il n'y a pas la perfection. Parce que c'est vrai, il n'y a pas de perfection dans ce monde. Même dans le Kodesh HaKodashim, ne pense pas que t'es au top. T'es au plus top que tu puisses être ici. Mais c'est pas Shalem. Ok, il y a une dimension de perfectionnement qui est continuelle. ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור, מבית ומחוץ תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב. Donc, on fait le Aaron, il est en bois, recouvert d'or. Donc, qu'est-ce qui est le plus important dans le Aaron?
Le bois.
Le bois, évidemment. C'est le plus pnimi, c'est le bois. Et c'est quoi donc? Le bois? Zetsomer. C'est ce qui continue à grandir. C'est-à-dire, par rapport à l'or qui est d'abord solide et aussi surtout qui est fixe, qui va protéger. Donc on a besoin d'une dimension profonde qui nous permet de continuer à grandir, mais qui a sa protection et intérieure et extérieure. Ok? ויצגת לו ארבע טבעות זהב ונתת על ארבע פעמותיו ושתי טבעות על צלו האחד ושתי טבעות על צלו השנית ועשית בדי עצי שיטים וציפית אותם זהב והבאת את הבדים בטבעות על צלות הארון לשאת את הארון בהם. Donc on a mis comme on dit en français, des anneaux, merci. Et des grandes barres qui sont là aussi, dans le même concept, en bois recouvert, pour soulever le haron. Lama. Il peut pas se soulever tout seul, le Aaron? Hein? Pour pas la toucher. Pourquoi? Des kadosh. Ben, ni au kadosh. Ah, y'a fait. T'as compris. C'est-à-dire qu'on fait directement des paliers de Kedusha. Ok? Je peux pas tout de suite arriver, et d'ailleurs, je n'y arriverai pas, à la dimension du Aaron. Nahon, c'est pas comme celui d'Aaron, mais même dans la vérité, Yesh Kodesh, Yesh Kodesh HaKodashim, Yesh Kodesh Kodesh HaKodashim. C'est pas c'est idéal de dire que il y a des madrigotes. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Dans ce monde, il a créé plusieurs niveaux. C'est une réalité de l'idéal. Ok? Ve'atata el Aaron et ha'edut asher eten elecha. Donc dans le Aaron, qu'est-ce que tu mets? Ha'edut. C'est quoi la Edut? Le témoignage. C'est-à-dire c'est quoi? Le Chot Abrit. La Seret Adibrot. Pourquoi c'est la Edut? Parce que j'ai entendu les 10 commandements et je vois que c'est marqué la même chose. Donc c'est le témoignage que j'ai entendu la parole de Dieu. Ce qui veut dire que Aaron, son rôle, c'est de faire le témoignage de Dvar Hashem. Ok? ועשיתה כפורת זהב טהור, המאתיים וחצי אורכו והמה וחצי רוחבו, ועשיתה שניים קרובים זהב, מקשה תעשה אותם, משני קצות הכפורת. ועשיתה כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה. מן הכפורת תעשו את הקרובים על שתי קצותיו. והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם, בכנפיהם, על הכפורת ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הקרובים. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. Donc, on fait un couvercle au Aaron. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est pas ouvert? Le Aaron, arrête les crouvis, on aurait pu les mettre à côté. Parce que c'est comme la Neshama, chez la gouffe. C'est-à-dire, donc de la même façon que la Neshama, elle est entourée du corps, eh bien, le Edout de Dvar Hashem Baouma, il est protégé, il est entouré. Alors, vous avez compris que on veut montrer Moshe, et comme ça qu'on va comprendre le Mishkan. Donc, vous avez compris que le Aaron abrite Zenishmat Moshe. Ok? Et donc, on va lui faire des crouvim. C'est quoi un crouve?
Un chérubin.
Un chérubin, et non pas un chou. Non. Eh oui, c'est écrit pas pareil. Donc un kérouv, c'est un chérubin. Mais ça veut dire quoi, un chérubin? Alors non, parce qu'un an, c'est un malach. De quoi nous? De quoi nous?
C'est pas la même division, mais c'est le même sport.
Alors, je fais pas semblant. Je ne suis pas d'accord. Le kérouv, c'est une statuette, tout à fait. L'ange, c'est pas une statuette. C'est-à-dire, l'ange, il n'a pas de détermination physique. Alors que le kérouv, c'est quelque chose, tu peux le lever, tu peux prendre en photo, machin. C'est une statue. Et il sert à quoi?
À faire beau.
À faire beau. Ça, j'entends. C'est faux, mais j'entends. Le kérouv, il sert à protéger? Au Gan Eden, oui. Il a mis les kérouvim, il me l'a tachere va mitaperet, mais pas ici. Bien sûr. Aucun doute. Il n'y a aucun doute que l'arche de Indiana Jones, c'est la bonne, bien évidemment.
On
s'attache
à ce qu'on peut.
Donc, ça ne sert pas à grand-chose.
Non, au contraire, la voie d'Hachem, elle se fait entendre entre les deux.
Ah, ça, c'est le verset qu'on n'a pas encore lu. Le kérouv, à la base, c'est le scooter divin. Ou alors le vélo divin. Ou alors la moto divine. Ou alors la voiture divine, la papa mobile. Oui? Bah quoi? Bah pourquoi pas, ça peut être une deux chevaux.
Mais attends, on parle du char de
Merkava. Ah, il y a la Merkava, évidemment, qui est dans le Sefer Yechezkel. Non mais attends, avant d'aller dans Yechezkel, d'où je sors que le kérouv, c'est la mobilette de Ribbono shel Olam. Eh bien, tout simplement, c'est pas moi qui l'invente, c'est marqué noir sur blanc dans Tehilim. On n'est pas encore arrivé à Tehilim, Zenachon, mais moi j'ai le droit. Vayirkav al kérouv vayaof, vayede al kanfe ruach. Donc nous dit le livre de Tehilim que Dieu, il est rochev, il chevauche son kérouv, et tous les soirs, eh bien, il va faire une balade dans la galaxie avec son kérouv. Et non pas son groove, mais ça c'est un autre problème. Donc ça veut dire que les kérouvim, il faut que vous compreniez ça, dans tous les temples de l'Antiquité, dans toutes les cultures d'idolâtrie, il y a des kérouvim qui sont à chaque fois les moyens de transport de la divinité. En général, pas toujours, en général, des animaux avec des ailes. Le kérouv le plus connu en Occident, il s'appelle Pégase. Dans la mythologie grecque, Pégase, le cheval ailé. C'est-à-dire offert en cadeau par Zeus. C'est-à-dire à Thésée. Je crois qu'il l'a offert à Thésée, je suis pas sûr. Me prends pas au mot, toi, Internet. Vérifions ça. En tout cas, ça, c'est le kérouv. Donc, les kérouvim. Alors ça, je pensais pas que tu... à ce point-là. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Mais non, laisse. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc voilà, Bekitsour, le kérouv, on a dit, c'est le moyen de transport de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dans toutes les cultures, dans les temples, tu voyais donc la statue qui représentait la divinité, qui était posée sur un moyen de transport, un char tiré par une bête céleste, machin, ce que tu veux. Nous dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, que les kérouvim, c'est la preuve que en lo gouf velo dmout hagouf, que le Dieu d'Israël, il n'a pas de corps. Pourquoi? Parce que dans toutes les cultures, quand tu vois un kérouv, tu t'attends à voir le Dieu de la culture en question, ou ça, au-dessus du kérouv. Tu rentres dans Kodesh HaKodeshim, tu vois des kérouvim, tu lèves la tête pour voir à quoi il ressemble le Dieu d'Israël, il n'y a pas de statue.
En l'occurrence, dans le Kodesh HaKodeshim, ils avaient c'était quel animal?
C'était pas des animaux.
C'était quoi?
On va voir, dans deux secondes, on n'a pas dit encore à quoi ressemblaient les kérouvim. Mais c'était pas des animaux. Maintenant, le Rambam continue en disant, alors pourquoi il y en a deux? Il peut avoir une mobilette. Ah voilà, c'est ça, c'est un leurre. Voilà. Non, pas chute, parce que s'il n'y en avait eu qu'un, nous dit le Rambam, t'aurais pu penser que c'est ça le Dieu. Mais fait qu'il y en a deux, tu sais que c'est pas ça le Dieu. Donc tu cherches le Dieu d'Israël, tu vois que en lo gouf velo dmout hagouf. En d'autres termes, les Kruvim servent tout simplement à être le clé par lequel Dieu va se dévoiler. C'est d'ailleurs le verset qui suit, Venodati lecha sham vedibarti itra me'al kaporet mi ben shnei kruvim asher al aharon ha'edut et kol asher tzaveh otcha el bnei Israël. Les Kruvim, c'est son casque à Moshe. C'est le casque 5G de Moshe. Moshe, bah, a priori, il parle à Moshe, là. Donc, il dit à Moshe, tu vas mettre la tête entre les Kruvim, et c'est ça qui va te donner le Wi-Fi. Ok ?
C'est pour Moshe, pas pour
Hachem. Bah, le Mishkan, il est ici.
Non, je suis d'accord, mais les Kruvim,
c'est pas pour Aaron, c'est pour Moshe.
C'est le moyen que Dieu il a voulu pour que Moshe puisse entendre la parole de Dieu. C'est-à-dire ?
C'est plutôt Aaron.
Encore une fois, là pour l'instant je connais pas de Aaron. T'as raison que dans les faits, celui qui va rentrer dans Kodesh HaKodashim, ça va être Aaron et les Kohanim Gdolim. Mais là pour l'instant on parle à Moshe. Exactement. Et tu sais quoi? Même après il va continuer à lui parler autrement. Ça veut dire qu'il y a une dimension de dévoilement quand il est Michoutz le Bet Kodesh HaKodashim et une autre dimension quand il est là-bas. Ok? Donc, le Kodesh HaKodashim, c'est un endroit où il y a la Edout, et les Kruvim.
La
Edout, le témoignage, donc la Seret Adibrot, les dix commandements, et les Kruvim. Or, on l'avait déjà expliqué, les dix commandements, c'est la Torah, c'est Kodesh. Les Kruvim, ce sont des statues en or, c'est Chol. Ce qui nous donne la définition du Kodesh à Kodashim, l'endroit où il y a l'union du Kodesh et du Chol. C'est ça? Donc ça, c'est la première dimension, c'est Keneged Nishmat Moshe. C'est pour faire référence à la Neshama de Moshe. Ok. Ve'asita shulchan atse shitim amataim orko ve'amavar orbo ve'amavachetzi komato ve'tzipita oto zav taor ve'asita lo zer zav saviv ve'asita lo misgeret tofach saviv ve'asita zer zav lemisgarto saviv ve'asita lo arba tabaot zav ve'natata et tabaot al arba paot asher le'arba raglav. לעומת המסגרת תהיינה הטבעות לבדים לבדים לשאת את השולחן ועשית את הבדים הצשיטים וטיפית אותם זהב וניסה בם את השולחן ועשית קערותיו וכפותיו וקשותיו וקשותיו ומנקיותיו אשר יוסח בהם זהב טהור תעשה אותם ונתת על השולחן לחם הפנים לפני תמיד. דוזיאם מסטנסיל qui est mise en avant ici, Ashulchan. Ashulchan. Mais Ashulchan. Si l'Aaron, c'était Keneged Aneshama, Ashulchan, c'est Keneged, Ape. Ape. Bah, Ashulchan. Bah, chez Ochlim. C'est là qu'on va avoir le Lechem Apanim. Ok? Donc, Ashulchan, c'est Keneged Ape. Lachen, c'est Keneged Aparnassa. La parnassa, c'est quoi? C'est la façon dont on se remplit la bouche. Nous, on a l'impression qu'il faut se remplir les poches. Aval zélo. Non, c'est pas une blague. On gagne son pain. Mais pourquoi c'est plus important de gagner son pain que de gagner de l'argent? Pourquoi est-ce que la parnassa, par excellence, c'est par la paix? Parce que lorsque je mange, je suis conscient dans mon être que ma vie m'a été donnée de l'extérieur. Que je reçois mon existence, mon énergie, de par l'extérieur. Et donc, je suis conscient d'être une créature. Et qu'il y a donc un créateur. La parnassa, c'est donc la connexion avec la connaissance que je dois ma vie de lui. Parce que, oui, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, tout à fait, mais tu n'es pas consciente quand tu respires. C'est-à-dire, à part quelqu'un qui l'a l'aine ou il a le corona, et il a du mal à respirer, et donc, là, il sait, il se rend compte que chaque respiration, c'est compliqué. Quelqu'un qui est en bonne santé, Baruch HaShem, ben, on respire, on s'en rend pas compte. Donc, tu as raison de ce que tu dis, mais c'est tellement un arnou qu'on s'en rend pas compte. Alors que manger, on s'en rend compte. Et on s'en rend compte qu'on peut pas sans. Ok?
Mais il n'y a pas que ça. Si tu as de l'argent,
ouais.
Si tu te donnes de l'argent, et que tu n'as pas les moyens d'acheter de la nourriture avec, ça sert à rien.
Ah, évidemment, mais évidemment, l'argent en soi.
Donc la nourriture, c'est la vie.
Mais c'est ce que, oui, c'est ce que j'ai dit. Tu l'as dit autrement, c'est très bien. J'accepte, tout à fait. Non, mais c'est de ça qu'on parle. Donc ça veut dire que la shulchan, zemekor achayim po. Ok, ça se passe là. Donc c'est la shulchan. Lachen yesh lechem apanim bashulchan. Lama lechem apanim? Pourquoi ça s'appelle lechem apanim? Parce que c'est ça qui va me permettre d'avoir meor panim. Vous avez déjà vu quelqu'un qui n'a pas mangé et qui a faim, qui a jeûné depuis un jour et demi? Vous avez vu la tête qui tire? Donne-lui un peu de damprout, donne-lui un petit kidouche. Ah, c'est pas la peine d'aller chercher un jour et demi, hein. Prends un mec à la fin d'une fila marocaine qui a duré 4 heures le Shabbat et donne-lui le kidouche à la fin. C'est plus le même mec. C'est pas chout, lechem apanim. Ok? Donc, si l'Aaron c'était la Neshama, Ashulchan, c'est à paix. Vasita menorat za'av. Menorat za'av ta'or. Miksha ta'ase amenora, yerecha vekana, gevia, kaftorea, prachea, mimena yu, veshisha kanim yotzim mitzida, shelosha kane menora, mitzida echad, ushlosha kane menora, mitzida sheni. Donc, il y a combien de tiges? Il y en a 7. Il y en a une au milieu, il y en a 3 qui partent d'un côté et 3 qui partent de l'autre. La grande question est de savoir, mais comment partent-ils? Est-ce qu'ils partent de manière arrondie, comme c'est représenté dans toutes les synagogues du monde? Ou alors, est-ce que ça part en ligne droite, comme c'est représenté dans les synagogues Lubavitch du monde? Quelle Hanoukia vas-tu utiliser à Hanouka? Une qui nous fait penser à la menorah. Mais est-ce qu'elle sera arrondie, comme celle de Knesset Israël? Ou est-ce qu'elle sera en ligne droite? Une question cruciale qui a versé énormément d'encre et qui a vu énormément de gens se disputer. Hein? T'as loué ma taille. Ça dépend quand. La menorah de Knesset Israël à l'époque du Beth Amikdash, c'est celle qui est au Beth Amikdash. La menorah de Knesset Israël à Yom, c'est celle qui est devant la Knesset. C'est la Knesset chez Israël. Non? C'est la Knesset. J'ai dit, ça dépend quand. Quoi qu'il en soit,
on a une représentation.
Ah, on a une représentation sur l'arc de Titus. Et que faire de cette grande sicha du rabbi de Lubavitch qui dit que c'est faux et qu'il a fait ça uniquement pour venir, comment dire, dénigrer la menorah? Et oui, c'est un grand débat. La menorah était-elle en ligne droite? Était-elle arrondie? Eh bien, les amis, je pense que pour répondre à cette question, on aura bien besoin d'un autre cours. On verra ça la semaine prochaine.